Les femmes qu'ils kidnappent sont généralement de belles blondes aux yeux bleus qui répondent parfaitement à leurs critères de beauté. Vu le nombre de femmes et de touristes qui se trouvent dans cette ville, je ne vois pas pourquoi ils s'intéresseraient à moi. Je précise. Il m'attrape le poignet et me retourne vers lui en me rapprochant de son corps. Je suis collée à son torse. Je lève la tête vers lui pendant qu'il me détaille.
Ils aiment les femmes à la beauté occidentale, mais le fait que tu sois atypique peut rapporter gros sur le marché de la prostitution ou sur la vente des filles.
Confesse, Amir. Je ne comprends pas. Je suis brune au teint mat avec les yeux marrons. Les femmes comme moi courent les rues. Je sais comment ça fonctionne dans ce milieu. Les blondes aux yeux bleus ou verts font fureur chez les hommes, suscitant la convoitise, tandis que les brunes aux yeux foncés sont souvent considérées comme banales ou fades. Elles sont perçues comme moins attirantes. Ce ne sont que des conneries, toutes ces merdes. Leurs critères de beauté sont à vomir. J'éprouve du mépris pour ces personnes qui pensent qu'elles peuvent créer une hiérarchie pour classer les physiques considérés avantageux ou non. Amir fronce les sourcils. Il contracte la mâchoire et semble se retenir de s'énerver.
Pour ces putains de trafiquants, une femme avec un teint comme le tien vient forcément d'Asie. Les prostituées asiatiques se font rares. Elles peuvent valoir une fortune. Je n'imagine même pas s'ils apprennent que tu es saoudienne. Ta valeur pourrait être multipliée par 5, voire par 10.
J'ai la sensation qu'il parle d'un objet qu'on vend aux enchères.
S'ils mettent la main sur toi, ils te feront des horreurs que je ne préfère même pas mentionner. Ils peuvent t'envoyer dans une maison close pour faire la prostituée, ou ils te mettront aux enchères et tu iras dans les bras du plus offrant. Tu deviendras son esclave et tu seras obligé de faire tout ce qu'il souhaitera.
Ajoute Amir. Un haut le cœur me prend en imaginant cette réalité. J'ai envie de vomir, ça me répugne tellement. Je ne m'abaisserai jamais à ce genre de choses. La mort sera plus douce que le déshonneur. Comment es-tu aussi bien informé sur les préférences de ces hommes et sur les origines ayant de la valeur dans ce cercle? J'espère que son gang n'effectue pas ce genre de choses. Quand j'y pense, je ne sais pas exactement dans quel genre d'affaires Amir trempe. Il s'est bâti un empire et une fortune colossale en s'adonnant sûrement à des trafics d'armes et de drogues, mais son trafic s'étendrait-il au trafic d'êtres humains? Je serais déçue et dégoûtée si c'était le cas. Je ne le verrai plus jamais de la même façon. Il m'a l'air d'être un homme de principe qui respecte les femmes. Il relâche son emprise et pose son regard sur le portrait de son grand-père. Il finit par se concentrer de nouveau sur moi.
Si tes questions sont « Est-ce que je travaille avec ce genre d'homme ?» ou « Est-ce que j'ai déjà participé au trafic d'êtres humains ?» la réponse est non. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais.
M'assure-t-il. Je laisse échapper un soupir de soulagement.
J'ai connu certaines personnes qui achetaient des prostituées sur le marché noir, mais je ne suis jamais tombé si bas. Je n'accepte pas qu'on force une femme à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire. Je considère que chaque personne est libre de disposer d'elle-même, et je ne pourrai jamais travailler avec des personnes qui s'en prennent à des femmes ou à des enfants.
Admet Amir. J'affiche un sourire rassuré. Amir est bien trop digne pour ce secteur. Il a beaucoup de défauts, mais sa dignité, personne ne peut la lui ôter. J'aurais dû me douter qu'il ne pouvait pas avoir de rapport avec ça. Je me sens stupide.
Je sais que les Asiatiques ont de la valeur pour les trafiquants parce que j'ai fait des recherches.
Pourquoi ? Il passe sa main dans ses cheveux. Ses joues virent légèrement au rouge. Il détourne également le regard vers un point invisible sur le mur. Il est gêné ou je rêve?
Tu te souviens quand ton père a voulu offrir une nuit avec toi à l'un de ses amis? Ce type était prêt à payer 1 million d'euros pour t'avoir.
Comment l'oublier? J'ai failli perdre ma virginité ce soir-là. Évidemment, le passage sur la virginité, il l'ignore, et c'est mieux ainsi.
Je voulais comprendre pourquoi un homme était prêt à payer autant pour coucher avec une femme. Je suis allé voir un flic corrompu qui travaillait dans une unité contre le trafic d'êtres humains et qui bosse pour moi maintenant. Je lui ai donné ta description physique ainsi que tes origines. Je lui ai dit que tu étais saoudienne. Et tu sais ce qu'il m'a répondu?
Je fais un signe négatif de la tête.
Il m'a dit que les femmes qui venaient d'Asie étaient comme des produits dont la rareté faisait augmenter le prix. Tu as raison sur le fait que les femmes hispaniques et blanches valent beaucoup, mais elles ne sont pas rares.
On parle de voitures ou de femmes, là? Comment peut-on nous réduire ainsi? Le monde dans lequel nous vivons ne cessera jamais de m'écœurer.
Généralement, ce sont des millionnaires qui achètent les femmes. L'argent n'est pas un problème pour ces hommes. Quand tu achètes une femme, elle t'appartient corps et âme. Tu peux faire ce que tu veux d'elle. Elle est tellement terrifiée par son patron qu'elle ne s'opposera jamais à lui.
Poursuis, Amir. Il marque une pause.
Ton origine fait augmenter le prix de départ pour t'acheter. Les enchères peuvent commencer à 500 000 euros. Une femme vierge peut coûter des millions d'euros.
Heureusement qu'Amen n'a jamais été au courant. Il aurait été capable de me vendre dès mon plus jeune âge. Il n'aurait pas hésité à faire d'autres enfants pour les réduire à l'esclavage. Amir a eu ma virginité gratuitement. Je réprime un sourire en imaginant le sien s'il apprenait que je la lui ai cédée. Aucun million ne vaut Amir Ben Khalif.
Et comme j'ai dit que je ne te mentirai plus, j'admets que si je ne voulais pas que tu viennes en Afrique du Sud, ce n'est pas uniquement pour te protéger des mercenaires, mais aussi pour éviter de devenir la cible de trafiquants d'êtres humains.
Reconnaît-il. Pourquoi mon cœur bat si vite? Il risque de sortir de ma poitrine. Amir a fait toutes ses recherches et il a tout mis en place pour veiller sur moi. Je ne sais pas comment réagir. Est-ce que c'est son moyen de se faire pardonner après m'avoir fait charcuter?
Quand vous êtes monté dans le jet, j'ai fait croire à Mathieu que vous partiez au Panama. En réalité, vous alliez en Tasmanie. L'Amérique latine est une destination trop dangereuse pour toi. Josh était dans la confidence. J'ai menti à Mathieu parce que je voulais éviter qu'il fasse une crise de panique en comprenant qu'il se retrouverait dans un endroit naturel avec plein d'insectes et une connexion à Internet limitée. En Tasmanie, tu aurais été tranquille.
Révèle Amir. Je souris en imaginant Mathieu faire une crise d'angoisse et crier au complot s'il avait su la véritable destination. Amir voulait assurer ma sécurité. Tu avais tout prévu? Ma voix sonne comme un léger murmure.
Je devais veiller sur toi,
affirme-t-il. Je lui adresse un petit sourire qu'il me rend. J'ai envie de le remercier pour tout ce qu'il vient de me révéler, mais je n'arrive pas à trouver les mots. Je n'avais pas l'impression de compter autant pour lui. C'est étrange. Il s'est vraiment donné beaucoup de mal pour s'assurer de ma sécurité. J'ai l'impression d'avoir été sa priorité. Je vais aller me changer, je lui dis. Il vaut mieux partir pour que le malaise se dissipe. Je ne supporte plus son regard sur moi, ni cette sensation que mon cœur explose. Je me dirige vers les escaliers. Je soulève ma valise pour la porter quand Amir l'attrape pour monter les escaliers. Je le suis avec un sourire timide. Lorsqu'on arrive à l'étage, il dépose ma valise dans ma chambre et me laisse découvrir celle-ci. Un lit, une petite commode et un bureau. Je referme la porte, puis je retire mes chaussures et mes vêtements. Je sors de mon bagage une robe légère noire qui m'arrive au-dessus des genoux. J'hésite, puis je finis par l'enfiler. Une fois prête, je redescends au salon. Quand j'arrive en bas, Amir est assis sur l'un des canapés en train de regarder la carte. Il m'entend arriver. Il détaille ma tenue en haussant les sourcils.
Depuis quand tu portes de telles robes, toi?
S'étonne Amir. Je sens une pointe d'amertume dans sa voix. Il serre les poings et contracte la mâchoire. J'ai pas envie de mourir de chaud avec un jean. Ses sourcils ne cessent de se froncer.
Tu sais que tu ne sortiras pas habillé comme ça demain au moins.
J'arque un sourcil. Pourquoi?
Tu t'habilles comme tu veux à l'intérieur tant que je suis la seule personne présente. À l'extérieur, ce genre de robe, tu peux l'oublier.
Me prévient-il. Je le regarde, abasourdi. Il est devenu fou ou quoi? Je suis en train d'halluciner. Le pire, c'est qu'il est sérieux. J'espère qu'il ne pense pas qu'il va contrôler mes tenues alors qu'on n'entretient aucune relation amoureuse. Et même si c'était le cas, je m'habillerai toujours comme bon me semble. Les femmes ont combattu pour leurs droits. C'est aussi pour cette raison. Depuis quand tu penses avoir ton mot à dire sur mes vêtements? Je croise les bras autour de ma poitrine pendant que nous nous défions du regard. Il ne baissera pas les yeux. Ça tombe bien, car moi non plus.
Depuis que j'ai posé mes yeux sur toi, tu ne vas pas montrer toute ta peau à ces mecs en rut.
Son ordre ne laisse aucune place à la contestation. Cause toujours, tu m'intéresses. Il affiche un sourire en coin. Ça ne présage rien de bon.
Je te conseille de m'écouter, sinon je serai obligée de donner à Mathieu tous les détails de nos ébats sexuels. Je suppose que tu sais que le dire à Mathieu revient à le dire au monde entier.
J'ouvre grand la bouche et lui donne un coup de poing dans l'épaule. Il rigole à plein poumon comme si je l'avais chatouillé. Tu n'oserais pas.
Je n'aurai aucun scrupule à le faire.
Se moque Amir. Il me lance un regard de défi. Je te déteste, Amir. Il affiche un sourire en coin, laissant apparaître ses fossettes. Sa beauté est indécente.
Et je t'ai déjà dit que moi, je ne te détestais pas, poupée.
Je réprime un sourire. Je finis par m'asseoir à côté de lui. Il rigole, puis il me donne un léger coup d'épaule.
Ne fais pas la gueule, t'es moche comme ça.
Je fais un petit sourire. Quand on venait de se rencontrer à la prison, tu passais ton temps à me dire que je n'étais pas si belle que ce que je pensais. Une époque qui me paraît si lointaine. Tant de choses ont changé depuis ce jour-là. Je ne le supportais pas, lui non plus. Qui aurait cru que je serais dans un pays inconnu avec lui maintenant?
Tu me cassais les couilles à ne pas me craindre et à toujours me répondre.
Avoue, Amir. Nos regards se mêlent l'un à l'autre sans se lâcher. Je savais que tu me toucherais pas.
Ah ouais? Et qu'est-ce qui te faisait dire ça?
Je perds mon sourire et cesse de le regarder. Quand on grandit avec un homme violent, on sait distinguer les autres hommes violents. Toi, t'étais dur avec moi, mais j'étais sûre que tu ne me frapperais pas. Je confesse. Amir n'est pas comme mon père. Amir est rare. Quand il se rend compte du malaise que j'éprouve en parlant de mon père, il me donne une légère tape sur la tête et il sourit. Je lui offre un sourire complice.
Tu me cassais les couilles, mais tu éveillais ma curiosité.
Je le regarde, étonné.
Pourquoi? J'avais l'impression que tu portais le poids du monde sur tes épaules et que tu n'avais pas une minute de répit. Pourtant, tu prenais toujours le temps de t'occuper des autres. Je me souviens de ta gentillesse avec Fatih et comment tu veillais sur Mathieu.
Précise-t-il. Je n'arrive pas à y croire. Quand il prétendait me détester, il faisait quand même attention à moi.
Tu me pistais, c'est ça? Ne dis pas n'importe quoi. Ta vie m'indiffère,
répond Amir en haussant les épaules. Je lâche un rire franc. Tout ce qu'il a fait pour moi prouve le contraire. Ta vie à toi ne m'indiffère pas, Amir. Il ouvre grand les yeux de surprise. Il se met à rougir et à regarder le plafond tout en se grattant les cheveux. Je viens de le mettre mal à l'aise. Il finit par me tendre sa main. Je le regarde avec incompréhension.
Viens. On sort,
m'invite-t-il. Je croyais qu'on devait rester ici.
On va dans le jardin.
Laisse-moi enfiler mes chaussures.
Pas besoin.
Il m'attrape la main et se dirige vers l'arrière du salon pour ouvrir une porte que je n'avais pas remarquée. Derrière celle-ci, je découvre un jardin composé d'une multitude de fleurs avec un grand arbre au milieu. Il a dû embaucher quelqu'un pour se charger de l'entretien de la verdure pendant son absence. Il me lâche la main lorsque nous arrivons devant l'arbre. Un petit trou est creusé au pied et une urne noire y est déposée.
Qu'est-ce que c'est?
Il hésite avant de dire.
Maria m'a dit qu'elle voulait être incinérée. Ce sont ses cendres. Elle savait que tu ne serais pas en état de le faire. Elle m'a demandé de m'en charger. Je me suis dit que l'Afrique du Sud était un beau pays pour enterrer une grande dame comme Maria. Donc je l'ai prise avec nous. Mais si tu souhaites l'enterrer en France, on peut aussi le faire. Tu fais comme tu veux.
Je regarde l'urne sans rien dire. Les cendres de Maria sont à l'intérieur. L'hommage que je lui rendrai ici sera le dernier. Amir semble attendre une réponse de ma part. Je me baisse pour m'asseoir par terre face à l'urne. Je l'attrape et la serre contre moi. Je lève les yeux en l'air pour éviter de fondre en larmes, mais c'est trop tard. Je me mets à trembler tout en la serrant fermement contre moi. Ma Maria. Ma seconde mère. Je suis désolée de ne pas avoir été à la hauteur pour te protéger. J'aurais voulu te rendre tout ce que tu as fait pour moi. Merci d'avoir aimé une fille comme moi dont personne ne voulait. Je te remercierai jamais assez pour tout ce que tu m'as apporté. Grâce à toi, je n'ai pas sombré dans la noirceur dans laquelle on a voulu me propulser. Je me mets à suffoquer. Mes mains et mes lèvres tremblent. L'urne se retrouve mouillée par mes larmes. C'est si difficile de faire ses adieux. Mais il le faut. Je dois trouver la force de faire mon deuil. Je suis maudite depuis ma naissance. Toutes les personnes que j'aime finissent par s'en aller. Tu ne m'as jamais jugée et tu m'as toujours soutenue. Je te promets de te venger et de faire en sorte que tu puisses reposer en paix. Ahmed t'a fait énormément de mal. Il le paiera. Je serre une nouvelle fois la boîte contre ma poitrine. Je ne t'oublierai jamais. Tu mérites le repos pour tout ce que tu as enduré. J'espère qu'on se reverra dans une autre vie. Notre route ensemble se termine ici, mais je n'oublierai jamais ton sourire, ni la personne formidable que tu es. L'Afrique du Sud est un pays merveilleux. Il n'est pas souillé par mes crimes, ni ceux de mon père. Tu seras bien ici, Maria. Je dépose l'urne dans le trou que je recouvre complètement de terre. Dès qu'elle n'est plus visible, mes pleurs s'intensifient. Je sens une main se poser sur mes cheveux et les caresser délicatement. Je relève la tête avec le visage humide et mon regard croise celui d'Amir. Il a cette lueur et lorsque je la vois, j'ai la sensation que tout ira bien. Elle me réchauffe le cœur.
Tu peux compter sur moi pour ne pas partir comme les autres. Je resterai à tes côtés, poupée.
Me promet Amir en souriant. Quelques heures plus tard, 20h47. Je suis assis sur le canapé en train de lire un livre à côté d'Amir qui observe encore la carte quand on frappe à la porte d'entrée. Enfin, les garçons sont de retour. Amir se lève pour leur ouvrir. Je reste assise, plongée dans ma lecture quand j'entends des cris. Je relève la tête et j'aperçois Amir en train de se faire électrocuter par des tasers électriques. Son corps s'écroule au sol après quelques secondes. Je me dirige en courant vers lui, mais il est évanoui. J'ai à peine le temps de distinguer des silhouettes que je reçois un violent coup sur la tête et je sombre dans l'inconscience. Alors que je m'écroule, je sens des bras m'encercler. Une odeur nauséabonde emplit mes narines avant de m'endormir.